Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 118e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Monsieur Fasquille.
Tu sens mon ton enjoué un petit peu?
Ouais, génial, tout va bien, impeccable, super, une semaine extraordinaire, tout passe comme prévu. Vous savez, nous sommes des professionnels, nous gérons tous les aléas de la vie.
Ouais, on fait ce qu'on peut. Comme chaque semaine, donc je le disais, on fait une petite sélec, on va parler gaming, app culture et tech. On va commencer par le gaming avec des news du DLC payant, le premier DLC payant pour Dead Cell. Il voilà. Paraît que j'ai fait une petite bêtise.
Non, mais écoute, on était à l'heure, hein, on l'a annoncé le 6 décembre, donc voilà, sauf qu'on l'avait appelé le Big Seed, hein, je ne sais pas pourquoi.
Je sais pas non plus.
Et voilà, donc en fait c'est Bad Seed et on a la date, donc c'est confirmé pour le 11 février, ça va coûter 5€. On vous refait pas l'article sur ce DLC qui va rajouter deux biomes complet avec plein de choses à buter et des petites armes qui vont avec. Voilà, Dead Cell, vous savez qu'il faut y aller. Ouais. Si vous avez toujours pas craqué pour Dead Cell, je sais pas trop ce que vous attendez, sauf si évidemment vous êtes allergique au genre. Mais très honnêtement, tester, c'est vraiment, vraiment un bon titre. Un des meilleurs trucs qui soit sorti de nos studios hexagonaux. Donc franchement, 5€ pour un DLC qui va permettre de retourner se faire massacrer par les monstres, parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche quand même bizarrement. C'est un petit coup, c'est 5€. Pour tester le masochisme, c'est pas très cher.
Non, c'est pas très cher, effectivement. En parlant de masochisme, enfin plutôt là, pour le coup, c'est de la souffrance pas voulue, on va dire. Encore un coup dur pour Twitch, hein, puisqu'on a appris cette semaine que YouTube, donc nos amis de Google, avaient signé un gros deal qui porte sur plusieurs années avec Activision Blizzard, en fait, pour la diffusion exclusive du contenu e-sport de l'éditeur sur la plateforme de Google. Alors, c'est pas rien quand même, parce que chez Activision Blizzard, il y a du Overwatch, il y a du Call of Duty, il y a du Hearthstone. Alors, bizarrement, le communiqué de presse parle pas de StarCraft, donc j'ai pas trop pu creuser. Je sais pas si c'est inclus dans le package ou pas, mais je vois pas pourquoi ça le serait pas. S'ils ont un deal exclusif, il y a des chances.
Ça va être un sacré merdier. Hein.
Ouais. Parce que Twitch avait un deal, en fait, de 2 ans qui portait sur la Ligue Overwatch, qui était un deal de 90 millions de dollars, ce qui est quand même pas rien. Donc, ils doivent l'avoir un petit peu mauvaise, d'autant plus que, ça se passe pas très bien pour Twitch, déjà avec Microsoft, qui vient lui piquer tous ses streamers vedettes pour son service de streaming. Ça s'appelle comment déjà, j'ai oublié.
Mixer,
voilà, c'est ça. Donc, clairement, une volonté affichée de Google d'aller chatouiller Twitch, qui a un peu de mal en ce moment, on va pas se voiler la face. YouTube, pour sa part, ils ont du mal avec les jeux. On sait que YouTube Gaming, ça a pas vraiment été un franc succès, pour rester gentil. Mm-hmm. Et pour Activision, l'intérêt de ce deal, il est surtout à aller chercher du côté de l'IA de Google, en fait, qui permet de traquer non seulement les spectateurs, mais aussi les joueurs. Et donc, derrière, de pouvoir leur vendre du contenu personnalisé, par exemple, hein, tu joues avec une arme régulièrement et puis l'IA de Google le repère et puis on peut te proposer du coup une skin exclusive pour cette arme, ce genre de procédé.
Super.
On adore sur Torréfaction. Donc voilà, alors comme je le disais, on parle pas de StarCraft, on va creuser pour voir si c'est inclus parce que c'est quand même le gros morceau aussi, hein, StarCraft, l'air de rien, c'est pas négligeable.
Ouais, mais c'est surtout que ça va impacter plein de chaînes et plein de gens qui ont leur chaîne sur Twitch et qui
tout
ont des
fait.
Deals avec Blizzard particulièrement pour les trucs, pour ces compétitions, je pense à nos amis de chez Gaming et compagnie. Donc va falloir qu'on creuse pour savoir un petit peu comment ça va se goupiller. Est-ce qu'ils vont être obligés de mettre des chaînes sur YouTube, mais ils ont pas de viewers sur YouTube, enfin ils ont pas de viewers, les gens sont pas habitués, tu vois. Donc est-ce qu'ils vont être obligés de mettre un pauvre une bannière sur Twitch, c'est là que ça se passe les gars. Je sais pas, c'est super chelou. En tout cas la baston entre les différents services de stream, elle va être rigolote à suivre, parce que il y a même eu un deal là que j'ai vu passer avec la NFL du côté de Twitch, YouTube, enfin en fait la baston c'est un tripartite, mais en plus là il faut pas oublier un acteur dont on a rien à foutre là 3/4 du temps, mais qui moi me touche de près, d'accord, parce qu'il s'appelle Caféine,
c'est vrai.
Et ça c'est pas possible. et c'est des anciens d'Apple qui avaient monté ce truc là dont je vous avais déjà parlé, Caféine avec 2 F, parce que ce sont des Américains évidemment, et eux ils sont plutôt partis dans le bling bling et dans les gens qui font un peu de sport et qui stream on the side pour ça s'amuser, qui font ça en plus. Et très honnêtement, je sais pas comment ça va se terminer, parce que je vous mentirai en vous disant qu'il y a de la place pour tout le monde, en tout cas sur les content creators, comme on dit chez nous. Il y a un moment où t'as pas tant que ça de streamers qui sont capables de fédérer des vraies communautés et de faire bouger avec toi. Même si on regarde les chiffres de notre ami pas Ninja, mais Shroud, alors je sais plus si c'était Ninja ou Shroud qui avait été cité dans un papier, mais son audience sur Mixer, il a pris 30 ou 40 millions de dollars par an, mais ce qui était équivalent en fait, ce qui était équivalent par rapport au nombre d'abonnés à ce qu'il gagnait sur Twitch, c'était logique, on va dire, mais ce nombre a été divisé genre par 4 sur Mixer, et ça continue de descendre, parce qu'en fait, les gens ont pas du tout l'habitude d'aller sur Mixer et vont finalement switcher sur autre chose, ou voudraient bien regarder, mais pensent même plus à lancer le truc, tu vois, donc ils ont un vrai problème de masse critique chez Microsoft, et c'est pas en dépensant énormément de thunes à chaque fois que tu peux forcer la main des gens une fois qu'ils ont pris certaines habitudes, c'est tu clair. Vois. Et puis, il faut pas oublier que Twitch a des outils beaucoup plus rigolos que tous les autres, c'est-à-dire que tu peux rajouter des mods, en fait, dans ton... quand toi, tu streams, tu peux rajouter des trucs dans Twitch pour faire des sondages, pour montrer avec quoi tu joues quand tu joues à certains jeux de cartes. Les gens peuvent regarder ce que tu as tiré, ce que tu as dans ton deck, etc. Voilà, donc...
Ouais, c'est ce que je me disais, la plateforme de Google, YouTube, est pas particulièrement complexe ou dotée de fonctionnalités avancées, ce qui risque quand même de peser un peu dans le jeu, quoi.
Tous, et en fait, Twitch est les seuls qui ont ça. Alors après, ça a les défauts de ses qualités, hein. Twitch, c'est un site qui est très lent, l'application, des fois, elle a la bourre par rapport à ce que propose la version web, etc., etc. Donc, voilà, ça va être une baston à suivre de près. Moi, personnellement, je sais que je regarde des streams que sur Twitch, je déteste l'interface de Mixer et YouTube, j'y pense quasiment pas. Puis alors, pour trouver des mecs qui streament directement sur YouTube, bon
ouais,
courage,
c'est ça aussi, hein, ouais.
Amusez-vous. Donc voilà, donc j'attends de voir comment ça va se passer, mais j'avoue que je suis pas ces histoires d'exclus, de deals dans tous les sens, ça va vite être pénible. Ça me rappelle nos histoires de streaming, tu vois.
Ouais. Alors mauvaise nouvelle cette semaine côté jeu de cartes, puisqu'on a appris que Duelist, un jeu qu'on a beaucoup défendu dans Torréfaction, c'est fini.
Ouais, c'était notre côté. Il va mourir, mais on y croit quand même. En plus, pour être tout à fait honnête, ça faisait un moment que j'avais pas trop joué. Duelist, c'était un titre qui était ultra sympa, avec un visuel, des designs qui étaient un petit peu novateurs, et surtout une dimension stratégique qui n'existait pas, en tout cas pas vraiment sur ce domaine. C'est-à-dire que non seulement on a un jeu de cartes à collectionner avec des unités à placer, mais on jouait sur un plateau, et ce plateau, du coup, ça donnait vraiment une ambiance, une dimension stratégique qu'on n'avait pas les autres titres. La problématique, c'est que tout est parti un petit peu en sucette quand il y a eu le partenariat entre Bandai Namco Entertainment et puis Counterplay Games qui faisait le jeu. Le suivi n'a pas été magique, surtout qu'au moment du rachat, ou en partenariat, je fais des air guillemets à côté du micro comme d'habitude, ils voulaient tout passer sur les serveurs de Bandai Namco, et ça a été une catastrophe parce qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas gérés. Comme je dis dans la news qui est linkée sur le billet du podcast, en fait la problématique, c'est qu'il y a même des gens qui jouaient par exemple en Russie qui ne pouvaient plus du tout accéder au jeu parce que les autres Namco, ils n'ont pas de serveur, ils n'avaient pas de division en Russie par exemple. Donc ça a été un bordel sans nom sur Reddit, les gens ont râlé à peu près partout, ça a été vraiment très très mal géré. Et puis derrière, ce qui s'est aussi passé, parce que très honnêtement, beaucoup de joueurs, moi y compris, ont tapé sur Bandai Namco historiquement en se disant vraiment c'est de leur faute si ça part en sucette, etc. Mais ce qu'on ne savait pas et ce qu'on sait maintenant, c'est que chez Counterplay Games, en fait, ils ont vraiment laissé une équipe squelettique pour bosser sur Duelist, et les autres étaient partis travailler sur le jeu qui a été présenté il n'y a pas très longtemps sur les derniers awards du jeu vidéo, la grande messe
Video Game
quoi,
Awards,
ouais, la fête à la saucisse, voilà, où ils ont présenté Godfall pour PS5, et du coup ils n'en avaient plus trop grand chose à foutre de Duelist, et en plus ils avaient promis pendant des années une version mobile qui n'est jamais arrivée. Tout ça mis bout à bout faisait que le jeu n'avait pas vraiment d'espoir de survivre. Et puis maintenant que les poids lourds sont installés, genre notre Riot, Riot qui débarque avec Runeterra, qui va pas aider à faire le ménage sur le marché, enfin si, ils vont aider à faire le ménage sur le marché, c'est les petits, hein, j'ai mal pour vous les gars, mais tu vois il y a des trucs basés sur des grosses licences mais qui décollent pas vraiment, hein. The Witcher avec Gwent, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs. En revanche, t'as Magic the Arena qui, malgré l'absence de version mobile et un truc codé un peu bizarrement évidemment parfois cartonne parce que c'est Magic, voilà, point. Et puis évidemment Hearthstone qui continue de truster le marché, et pourtant il y a plein d'acteurs qui gravitent autour, mais voilà, c'était pas gagné. Et Duelist à mon avis ne sera que le premier, parce que on avait parlé à l'époque de plusieurs autres titres qui à mon avis là sont en train de disparaître aussi gentiment sans faire de bruit. Et je rappelle que Duelist c'était un truc qui était à la base un projet kickstarté en 2014, donc finalement il aura tenu 6 ans,
c'est pas mal.
Et voilà, donc on pleure, mais bon, comme je vous disais au début, hein, j'ai pas joué pendant un an non plus, donc c'est aussi de ma faute, pardon.
Je me posais la question justement par rapport à ce genre de jeu, ce qu'on appelle les games as a service, en fait, il n'y a pas moyen que le code de serveur soit récupéré par des fans pour en faire versions
sur Reddit, sur Reddit, en fait, les mecs demandent aux gars de Counterplay Games de trouver une solution pour pas que ça disparaisse complètement et puis de garder une trace du jeu. Après, ça dépend complètement des accords et de la bonne volonté de ces gens-là, donc ça va être un bordel. Moi, ce qui me crève le cœur, c'est qu'en plus, ça flingue toute la communauté qui est autour, avec des gens qui avaient fait des sites web vraiment ultra chiadés autour du jeu. Je pense à Duel Spot, qui était un truc vraiment fantastique pour aller voir un petit peu ce que tu pouvais faire comme deck, les cartes, etc. Et le mec avait vraiment réussi à faire une version mobile du jeu grâce à une version web dont je ne connaissais même pas l'existence. donc il y a pas mal de mecs sur Reddit qui étaient dégoûtés en mode genre, mais je viens de découvrir la version mobile, me faites pas ça, je tourne à 5 games par jour de et ma drogue. Donc voilà, pour la conservation du jeu vidéo, ça reste une vraie question, cette problématique des jeux en ligne qui disparaissent comme ça, puisque pas de serveur, pas de jeu, et ça va être un truc qu'on va continuer à voir dans les années qui viennent. C'est une discussion, on va dire, qui n'est pas nouvelle, mais ça va pas aller en s'arrangeant.
Et on reste dans les déceptions avec la sortie cette semaine de Warcraft 3 Reforged, que j'ai sous-titré le remaster de la paresse. Blizzard donc a sorti cette semaine une version remasterisée de Warcraft 3, et c'est une grosse déception. On va pas tourner autour du pot. Faut savoir qu'en fait Blizzard avait fait des annonces quand même dithyrambiques sur cette nouvelle version, cette nouvelle édition du jeu culte, du RTS culte des années, c'était quoi, c'est fin des années 90, fin des années 90, début des années 2000, je sais plus.
C'est vieux, on était jeune et beau encore.
On était jeune et beau et svelte.
Avec le poil brillant.
Un produit qui devait être bien plus ambitieux que ce qu'ils nous ont livré cette semaine. On parlait à l'époque d'une nouvelle interface utilisateur complètement revisitée et remixée, des cutscenes améliorées, des nouveaux dialogues, des tweaks au niveau de la campagne solo. Et au final, on n'a pas grand-chose en fait, puisque Blizzard a visiblement un peu baissé les bras sur ce projet. Pas de changement massif, on peut à peine parler d'un relifting HD. Alors il y a des nouveaux modèles 3D pour les persos. Globalement, les graphismes sont un petit peu plus jolis, plus détaillés, les unités mieux animées. Mais très franchement, on le voit qu'en zoomant, et c'est pas très pratique de jouer quand on zoome, donc finalement ça sert pas à grand chose. Chose qu'on peut signaler et qui est encore un point négatif, c'est qu'ils ont aussi profité pour essayer de plus faire avoir comme la dernière fois. Donc ils ont verrouillé les mods en fait. En gros, tu peux faire des mods, mais c'est de facto la propriété de Blizzard. C'est pour éviter évidemment d'avoir à faire face à un nouveau Dota. On se rappelle que Dota c'est un mode qui était né en fait de Warcraft 3 et sur lequel Blizzard n'a eu absolument aucun contrôle et qui finalement a permis de faire gagner beaucoup de sous à Steam, à Valve.
Et à Riot.
Et à Riot.
En faisant une copie. Et donc pas là, trop Blizzard avec ça. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils ont essayé de faire une copie aussi et qu'elle marche pas trop bien.
C'est vrai. Et puis là, du coup, ils se sont dit, cette fois-ci, on va plus se faire avoir. Donc en fait, si vous faites des mods, c'est super, mais sauf que ça sera à nous. Donc les fans, au final, sont quand même ultra deg. Ça gueule sur les forums. Le surnom du jeu, c'est Warcraft 3 Refunded. Donc moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et pour le moment, pas de réponse de Blizzard officielle, en tout cas au backlash. Donc on va suivre ça. Peut-être qu'ils vont se dire, finalement, on a merdé, on va revoir notre copie. Mais j'ai quand même un gros doute. Donc voilà,
c'est Activision maintenant derrière. N'oublions pas.
Donc Warcraft 3 Reforged, n'y allez pas. Hein. Gardez vos sous et achetez d'autres trucs comme par exemple l'excellent DLC pour Dead Cell.
Ah, c'est bizarre. Et c'est moins cher. C'est génial.
Et en parlant de Dota, tiens, t'as des choses à nous annoncer.
Oui, on en a parlé l'année dernière déjà et j'ai pas refait de news cette année parce que faut pas déconner. Mais là, le documentaire True Sight est disponible pour l'édition de The International 9, donc la compétition de l'été dernier en 2019. C'est la plus grosse grosse compétition d'e-sport de la planète, en tout cas en termes de cash prize. C'est évidemment un tournoi de Dota 2 et Valve tous les ans maintenant fait ce documentaire, donc TrueSight, qui est vraiment le meilleur du marché pour resavourer la victoire d'OG en l'occurrence. Donc on vous rappelle qu'on a un petit français qui s'appelle Seb dedans, et en plus moi j'aime beaucoup la team contre laquelle il joue en finale qui s'appelle Team Liquid, enfin qui s'appelait, car il y a eu pas mal de changements évidemment cette année. Donc là je vous ai mis un petit link dans le forum qui annonce, enfin qui annonce où j'ai mis les vidéos, vous pouvez venir partager vos sentiments sur ces trucs là et puis surtout regarder le roster de la team OG circa 2020, parce que il y a eu pas mal de changements et des changements assez intéressants puisqu'ils ont récupéré des anciens ennemis pour venir remplacer ceux qui sont partis à la retraite en fait, parce que personne n'a été viré de chez OG, c'est absolument pas le cas. On a deux joueurs dont le très mésestimé, en tout cas par ceux qui regardent le jeu de loin, hein, parce que ceux qui suivent savent à quel point c'est un dieu vivant, qui s'appelle Gérax. C'est un mec qui a motivé plein de joueurs de Dota à jouer support en fait. C'est un mec qui est hallucinant, et lui il a décidé que le prix à payer pour être à ce niveau là à chaque année était trop lourd et que ça l'empêchait de faire plein d'autres choses de sa vie, et que maintenant qu'il était multimillionnaire finalement il n'en a plus rien à foutre, et je peux le comprendre. Après je ne sais pas comment la dimension financière a influencé sa décision, mais bon, on verra. Et Seb, donc le français qui était à la tête de cette équipe sur les deux victoires, prend un poste de cadre, on va dire, de manager au niveau d'OG, mais du coup n'est plus dans le roster actif de cette équipe et sera remplacé également. Donc ils ont annoncé tout le roster, c'est que des anciens hyper connus. Il y a Midwan qui est là, il y a Saxa, mais bon, je vous ai mis un petit lien dans le forum et si vous voulez en parler, on en profitera pour faire ça par écrit. En tout cas, TrueSight, il y a deux volets, c'est assez rigolo d'ailleurs la façon dont ils font ça, c'est que vous avez le documentaire classique et vous avez une deuxième vidéo où vous voyez les joueurs regarder le documentaire. Et ça c'est hyper drôle parce que vous avez les deux équipes qui sont foutues sur la gueule, qui sont dans la même salle en train de mater le truc, et donc vous avez leur réaction. Et ça c'est à mourir de rire parce que on s'aperçoit en fait à quel point, déjà pendant le documentaire on s'aperçoit à quel point ils sont dans la tête les uns des autres, même au niveau au moment de choisir les héros et tout. Et du coup les réactions sont assez priceless les uns entre les autres, surtout que évidemment pour maintenir la hype et se maintenir motivé, ça trash talk un petit peu, et du coup là ils ont les mecs juste à côté d'eux quand ils regardent le truc, ça donne des moments assez savoureux. Ça se regarde sans fin, même si vous jouez pas vraiment à Dota 2.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a pas besoin de connaître le jeu pour regarder et comprendre. Moi, je l'ai maté hier, ouais. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu pied par rapport à Dota. J'ai pas trop suivi l'évolution du jeu, et en fait, c'est parfaitement compréhensible même par un novice. Il y a une
très
alternance.
Humain, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est une alternance entre des phases de jeu et puis surtout en fait ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe pendant qu'ils jouent, la communication entre les joueurs et tout. C'est assez intéressant de voir que finalement ces deux équipes ont des approches assez différentes du titre, de leur manière de jouer. En fait on sent qu'il y a vraiment une vraie cohésion du côté d'OG, on sent que du côté de Liquid c'est parfois un petit peu plus difficile, et au final c'est OG qui gagne, quoi.
Et puis il faut pas oublier que Liquid venait de jouer en fait, comme ils venaient du loser bracket, ils étaient crevés en fait, là on voit vraiment l'impact de la fatigue à ce niveau là et ils étaient vraiment cramés tout bêtement. Et puis on voit Kuroki qui est censé être le mec le plus calme de la terre et tout, on sent qu'il perd un peu pied, il est un peu énervé, il devient un petit peu bossy comme disaient les Américains, et c'est pas trop sa façon de gérer son équipe normalement. Enfin bon, ça a été compliqué. Il y a vraiment plein de mécaniques humaines, et quand on connaît un petit peu la scène, quand on connaît les joueurs, on savoure un petit peu plus. Mais même si vous connaissez pas vraiment, c'est hyper agréable à regarder. Vous allez, en plus c'est très bien fait. Il y a des petites séquences. D'ailleurs, il y en a moins que l'année dernière, je trouve. Des séquences pseudo 3D avec une vue dans la map du jeu sur certaines actions. Mais en tout cas, ça fait son effet à chaque fois. Même les joueurs ont vraiment adoré. On le voit quand ils regardent la vidéo. Allez regarder ça. Et puis on en parle ensemble sur le forum.
Allez, on passe du côté des apps. Tu voulais nous parler d'une nouvelle version d'une app pour iOS.
Ouais, Fantastical qui sort en version 3. Et alors, je vous ai linké un papier de 4 km en anglais. Je suis désolé, mais c'est le plus complet du marché. Même plus complet que celui de Mac Stories qui fait déjà 3 km. Où ça parle des nouvelles versions de donc Fantastical 3, qui est un calendrier hyper connu sur iOS et Mac depuis très longtemps. Mais qui là, donc, rajoute 1 milliard de choses. Et j'ai vraiment pas le temps, hein. On va le dire, et puis non plus l'envie de vous détailler tous ces trucs là. En revanche, je voulais mettre le doigt sur là où ça fait mal, c'est qu'en fait ils sont passés d'une version payante qui était déjà assez cher, parce qu'en fait, il fallait acheter la version iPad, il fallait acheter la version iPhone, il fallait acheter la version Mac, donc ça, ouais, ça faisait beaucoup, tu vois. Et la version iPad était super chère, la version Mac était super chère, la seule version qui était à peu près abordable, c'était la version iPhone, si je dis pas de bêtises. Et là, ils sont passés sur un truc entièrement gratuit, mais avec un abonnement derrière pour débloquer toutes les features premium. Alors, autant dire que, bah, comme d'habitude, quand une application indé comme ça passe en mode abonnement, les notes sont en chute libre, sur les différents stores, sur Reddit et les commentaires des news qui annoncent cette nouvelle version, ça crie au scandale. Franchement, détendez-vous. Déjà, c'est une app de calendrier, donc vous n'en avez pas tous besoin. Les fonctions avancées de ce truc-là sont vraiment, vraiment, vraiment réservées à des gens qui sont au taquet. Et du coup, la version gratuite, en fait, va suffire à plein de gens. Et c'est plutôt cool, en fait, qu'elle soit gratuite. Ça y est, j'ai fait un petit plutôt cool.
C'est ouais,
pas, ça c'est fait. donc, il n'y a pas matière à hurler. Et puis, je rappelle que, il faut bien que ces gens gagnent des sous pour pouvoir continuer à développer des apps.
Faut bouffer aussi dans la vie.
Voilà. Et Fantastical, ça met une grosse fessée à quasiment toutes les applis de calendrier classiques, si tu veux. Après, ça remplacera jamais les usines à la Outlook dans les grosses boîtes, hein, on est bien d'accord. Non, malheureusement. Mais ça fait le boulot. Donc, vous allez voir la liste des features. Vous verrez si ça fait le boulot ou pas pour vous. Franchement, ça gère même la Watch de chez Apple. Le truc que je vous ai linké, c'est un bouquin, donc préparez-vous un thé, un café, quelque chose, calez-vous, parce que vous allez voir, il y a de quoi lire, et après vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Mais on est vraiment dans l'appli de pointe, c'est le genre d'application qu'on retrouve pas vraiment sur Android, parce que justement il n'y a pas de marché sur des trucs aussi pointus qui vont aussi loin. Et j'aime bien l'écosystème Apple à cause de ce genre d'application. Après, tout le monde n'en a pas besoin. Et même moi, Fantastical, le mode premium, de vous à moi, je ne le prendrai pas. Voilà, ça c'est dit.
Allez, on passe du côté de la culture et de la culture musicale plus exactement. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé. Hip Hop Evolution. Alors, le titre est assez nul, mais c'est pas grave.
J'avoue.
Passer outre le titre, c'est sans doute l'une des séries documentaires les plus intéressantes sur l'histoire du hip hop. C'est une série qui avait été lancée en 2016 par HBO Canada, qui a été reprise par Netflix en 2018, qui a donc lancé une saison 2, en fait. On est à la saison 4 aujourd'hui. Saison 4 qui est sortie donc le 17 janvier dernier sur Netflix. Et c'est une série qui est présentée par un monsieur qui s'appelle Chad, qui est un rappeur canadien, et qui est constitué en fait d'interviews avec les principaux acteurs du mouvement hip-hop, que ce soit de la côte est, de la côte ouest, d'Atlanta, du Texas, de partout. Toutes les régions en fait où le hip-hop s'est développé. Et c'est super passionnant. Je veux dire, même si vous n'êtes pas un amateur du genre, il faut absolument regarder. Si vous êtes simplement amateur de musique, par exemple, vraiment, on découvre en fait le parcours de ces artistes qui ont littéralement inventé un nouveau genre musical et qui l'ont fait évoluer au fil des années. Et c'est vraiment super passionnant. Les entretiens sont super intéressants. La réalisation est vraiment aux petits oignons. Ça alterne entre interviews et documents d'époque. Le tout, forcément en musique. Donc voilà, Hip Hop Evolution, 4e saison disponible sur Netflix depuis le 17 janvier. C'est des saisons assez courte, c'est 4 épisodes, je crois, de 45 minutes, 50 minutes maximum à chaque fois, et ça fait vraiment bien le tour du sujet. Donc si vous voulez parfaire votre culture du hip-hop, franchement, foncez, c'est du tout bon. Je sais pas si tu l'as regardé,
pas
ou
du
si
tout.
Tu comptes la regarder, mais en tout cas, moi je te le recommande chaudement.
Je ne sais pas, ça me rappelle surtout des vannes que je peux pas vous faire, parce que c'est des privés de jokes et vous comprendrez pas, mais j'ai un ami, si un jour il écoute ce podcast, parce que c'est, tu vois, c'est une phrase, vous vendez pas du hip-hop, donc c'est cette ça, phrase, ouais. On s'en fout, vous vendez pas du hip-hop déclenche des fous rires entre lui et moi, mais si t'as pas le background, c'est mort. Et je vais pas vous l'expliquer, c'est beaucoup trop lent, mais ça m'a fait marrer parce que j'ai pensé à ça pendant tout le temps où tu expliquais ton documentaire, et donc c'était hyper dur de pas rigoler. Mais non, je vais regarder, je vais jeter une oreille et un œil.
Franchement, ça vaut le détour, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Alors, il y a évidemment des figures emblématiques qui sont des gens un peu barrés dans le monde du hip-hop, en fait. Il y a quand même des divas, on va dire, il y a des gens un peu particuliers, mais c'est assez rigolo de les voir s'exprimer et de les voir raconter. En fait, comment en fait ils ont inventé un nouveau genre de musique sans vraiment s'en rendre compte. Je trouve ça assez génial. Bref, on passe du côté de la tech avec un nouvel Amiga. What?
Quoi? Hein? De quoi
Qu'est-ce qui se passe?
Ah là 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 là. Non, alors, c'est un projet assez rigolo qui remonte à quelques années maintenant. Tu sais que l'Amiga, donc normalement, on est d'accord, cet ordinateur est mort, enterré, il appartient au musée. C'est un ordinateur des années 80, le premier sorti en 85. Il est mort d'une lente mort douloureuse dans les années 90, au moment de l'explosion du PC et puis l'arrivée des cartes 3D ont fini d'atomiser le truc. Et puis surtout les malversations des gens qui géraient Commodore, qui était la maison mère, ont vraiment laissé aucune chance au produit, comme dirait l'autre. Ils ont oublié que si tu fais pas de recherche et développement, bon, hein, au bout d'un moment, tu n'as plus rien à vendre. C'est un peu comme ça que ça marche, la technologie. Et en fait, il y a des passionnés un peu partout qui continuent de faire des cartes accélératrices, un peu folles pour cette bécane, les vieux modèles, les différents modèles, etc. Et dans le monde de la carte accélératrice, il y a des mecs qui sont encore plus tarés que les autres, qui font une carte qui s'appelle la Vampire. Et la Vampire, en fait, c'est une carte que tu installais avant ton Amiga 600, etc. Enfin, ils ont sorti plusieurs modèles pour différents types d'Amiga. Et puis, ils se sont dit, ouais, mais ce qui est chiant, c'est que tous ces Amiga, là, ils sont en train de crever. Il faut les recaper, tu vois, changer les transistors à l'intérieur, enfin, les condensateurs, sinon ça va fuir sur la carte mère, et puis ça va tout bouffer avec l'acide qui est à l'intérieur. Enfin, bref, c'est compliqué. Puis, si tu veux des Amiga en état de fonctionnement, il va pas y en avoir des milliards, donc le marché il faiblit, et eux ils veulent continuer à que les gens en fait non seulement connaissent la machine mais en fait connaissent l'OS qui allait avec. C'était ça le truc intéressant. Et donc je vais vous reparler de FPGA, parce que le FPGA c'est ce qu'on avait évoqué déjà quand on avait parlé d'émulateur, de cette petite console façon Game Boy qui intègre en fait un processeur programmable. Alors un processeur programmable, oui, tous les processeurs sont programmables, Cap, qu'est-ce que tu nous racontes. Alors le FPGA c'est un peu plus compliqué, et comme la dernière fois je ne vais pas vous faire un cours, mais en gros au lieu de donner du code à moudre, vous pouvez programmer directement la puce. Donc au lieu d'avoir un processeur qui est statique, qui a été designé d'une certaine manière et qui ne sait faire que ça, les processeurs en FPGA, on peut leur envoyer des logiciels dans la tronche et les reconfigurer. D'accord. Et donc du coup, ils vont pouvoir émuler, mais c'est pas le bon terme, hein, je suis désolé, mais j'ai rien là de mieux sous la langue. Ils vont pouvoir se faire passer, si tu veux, pour d'autres choses. Mm-hmm. Et donc là, ils ont été assez loin. Donc, ils ont annoncé en 2017 un projet qui s'appelait la Vampire V4 Standalone. Et c'est un projet qui, en fait, est arrivé chez les premiers passionnés en décembre de l'année dernière. Donc, tu vois, on a attendu un petit moment. Et qui permet, en fait, ils ont reprogrammé un Amiga dans une puce, en fait. Et il y a un Amiga, donc il y a un 68000, évidemment. Mais c'est compatible avec les machines de l'époque. Mais il y a aussi tous les coprocesseurs qui étaient dans l'Amiga dans cette puce. Mais comme le truc est super puissant, ils se sont dit en fait on va pas s'arrêter là, on va en rajouter. Donc ils ont fait évoluer Pola qui était la puce qui gère le son, voilà. Ouais. Donc ils l'ont renommé, hein, je sais plus, ils ont redonné des petits noms, ils se sont fait un peu plaisir. Mais le but du jeu en fait, c'est de tout faire tenir sur cette puce qui tourne uniquement à 50 MHz mais qui est déjà genre 3000 fois plus puissante qu'un Amiga de base, je crois. c'est un truc de fou. Et surtout derrière, une fois qu'ils auront un truc stable et qui fonctionne, ils pourront faire une puce là qui sera parce que l'FPGA est utilisé en prototyping les trois quarts du temps pour tester. D'accord, ce que tu vas vraiment fabriquer. Maintenant, il y a une nouvelle mode qui utilise ces trucs-là pour faire des petites consoles, des émulateurs, des choses où tu as besoin d'ajuster le tir au fur et à mesure. Mais à terme, ils se disent, nous, on fera peut-être une vraie puce une fois qu'on aura réglé tous nos bugs, tous nos problèmes. Là, il y a encore beaucoup, beaucoup de soucis. Et puis, du coup, ça ira encore plus vite et on pourra faire d'autres trucs encore plus rigolos. Et pourquoi je disais que c'est une équipe un peu folle? C'est parce qu'en fait, c'est pas du tout des mecs qui ont une boîte et qui veulent gagner de l'argent avec ça. Parce que vous imaginez bien que le marché, il n'est pas extraordinaire, tu vois. Donc en fait c'est une bande de potes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire Geekzone, eux ils font des Amiga, ils font des projets hardware de taré,
chacun son truc, hein,
c'est ça. Donc c'est un truc de fou. Je veux vous préparer, alors je sais pas si ça sera prêt au moment où vous écouterez le podcast, mais je vais faire une petite news avec tous les liens que j'ai rassemblés sur ce sujet. Pour les fans, sachez qu'en fait que la puce qui est utilisée au sein de la Vampire V4, c'est un truc qui s'appelle Altera Cyclone 5, et c'est donc un truc FPGA qui va pas très vite, qui a pas beaucoup de mémoire. Enfin, techniquement, il y a rien d'extraordinaire, mais comme on est en train d'émuler une bécane de 1985, enfin en tout cas qui est née en 1985, qui n'a pas beaucoup évolué par la suite, c'est largement suffisant, et tout le projet est passionnant. Et même si vous en avez rien à foutre de l'Amiga, le concept même est hyper intéressant, et surtout je me demande ce qu'attendent les communautés des autres machines pour faire des trucs un peu rigolos pareil, voire faire tout tenir dans une seule puce. Je sais pas si c'est possible, je m'enflamme. Mais bon, il y a des trucs rigolos à faire avec cette technologie, et je pense que le FPGA, c'est le tout début. Il y a des mecs qui sont beaucoup, 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 beaucoup plus intelligents que moi sur le sujet, qui en disent beaucoup de bien, donc j'ai tendance à leur faire confiance.
Et on va terminer par une bonne nouvelle, enfin pas tellement pour nous, mais surtout pour les actionnaires d'Apple.
Ouais, ça m'a fait marrer. J'aime bien faire ce genre de news de temps en temps, tu vois. C'est vraiment la news haters gonna hate. Alors les gars, Apple va crever cette fois. C'est vraiment. Puis là, c'est mal barré quand même. Hein. Ce cancer ne prend pas parce que tout le monde disait oui, l'iPhone 11, il est quand même bien, mais est-ce qu'ils vont vraiment vendre? Il est trop cher, blablabla. Oui, l'iPhone 11 Pro n'est pas donné. Je ne peux pas. Alors ça, les gars, s'il y a bien un sujet sur lequel on sera d'accord, c'est celui-là. En revanche, l'iPhone 11 normal, c'est un des plus gros best-sellers de la planète partout. Même, il y a plusieurs instituts de sondage qui suivent ce genre de choses, qui disent que c'est le téléphone le plus vendu plusieurs semaines de suite pendant les fêtes. Mm-hmm. Ce qui est relativement rare pour aller chercher des noises en termes de volume, je parle, hein, des gens comme Huawei ou Xiaomi. Donc c'est assez intéressant et donc ils ont annoncé le CA trimestriel, donc le chiffre d'affaires trimestriel le plus important de son histoire. Et là, ça me fait marrer parce que d'habitude, même quand ils annoncent des chiffres de ouf, la bourse baisse. Parce que tu vois, moi, je suis pas assez intelligent pour comprendre. Tu vois, on annonce des bonnes nouvelles et les mecs font genre ouais, mais non, c'est pas assez. Bon, d'accord. Non, cette fois, là, c'était tellement énorme que écoute, même les prévisions sur le prix de l'action s'envolent, ce qui est pas le cas d'habitude. Donc voilà, si vous aviez misé votre retraite en action que vous aurez pas, je vous rappelle. En action Apple, c'était un good move pour l'instant, continuez. Et on verra ce qu'ils vont nous sortir l'année prochaine, mais a priori, les rumeurs sont plus ou moins intéressantes. Et évidemment, ceux qui détestent Apple sont encore plus vénères. Donc écoutez, je vous enverrai voir notre ami Archeon, c'est lui qui est le responsable des stocks de sel sur Geekzone. Donc il fera les distributions directement, surtout que je lui fais un petit big up parce que je l'ai tellement pourri que maintenant il est full équipé Apple et qu'il adore ça. Et du coup, moi, ça me fait bien plaisir, tu vois, les gens qui viennent, qui font genre « Hey, mais c'est pas mal, hey, mais c'est vachement pratique !» Donc voilà, welcome.
Et c'est la fin de ce 118e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Toi, tu vas aller te plonger dans le hip-hop?
Écoute, je suis pas sûr. Comme j'ai beaucoup de jeux solo à finir, j'ai fait un truc très malin pendant les promotions. J'ai acheté Rainbow Six Siege. voilà, donc c'est un peu ma nouvelle drogue en ce moment. J'arrive 4 ans après la bataille, hein, parce que le jeu, on est à la 4ème saison. Mais bon, ils font des promos à 15 balles avec les 42 persos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Il y a un moment où je me suis dit, bon, allez, vas-y, je le prends, tant pis. Et voilà, et j'ai fait tenir ça. Il faut quand même que je le dise dans ce podcast, il faut assumer. Je me suis acheté un SSD de 2 Tera.
Ah oui.
Et ouais, mon gars. Bon, alors attention, hein, c'est des SSD qui sont techniquement un peu lents, mais qui ont des grosses mémoires cache pour faire genre ils sont rapides, mais dans la vie de tous les jours, ça suffit. Mais voilà, je vous mettrai une photo de mon montage de professionnel, ne faites pas ça à la maison, sur mon Instagram. Je vous linkerai ça sur le forum du podcast. Parce que vraiment, je suis fier de mon montage. Il n'y a pas MacGyver. De problème. Bah ouais, j'ai plus de place pour mettre les trucs de pouce et demi, alors j'ai trouvé une solution vraiment haut de gamme. J'ai hâte d'avoir vos avis sur ma solution et surtout les estimations de la durée de vie du truc.
Et du coup, pour financer les cours de bricolage de café, on vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr. Venez participer donc à la production des podcasts notamment et puis à l'alimentation du site de manière générale, hein, avec 1 euro, 2 euros, 5 euros, ce que vous pouvez tous les mois, ça nous fait plaisir et ça nous aide à continuer à produire ce contenu qu'on estime de qualité quand même.
Bah oui, même si des fois on a du mal à expliquer certains trucs. Arrêtez de me demander le FPGA, c'est compliqué le FPGA, c'est tout, voilà.
Allez, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.